Et notre invité ce matin se définit comme une sentinelle du climat. C'est d'ailleurs le titre de son dernier livre, Sentinelle du climat, paru chez HarperCollins. Bonjour Heidi Sevestre.
Bonjour.
Vous êtes glaciologue, vous êtes membre du Conseil de l'Arctique et vous travaillez dans un programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique. Vous y retournez, je crois, dans quelques jours.
Oui, dans deux semaines à peine.
Dans deux semaines. L'actualité de la semaine, c'est cette dernière étude qui montre que dans l'Himalaya, la fonte des glaciers aurait été largement sous-estimée sur les 20 dernières années, jusqu'à 65% d'erreurs pour le cas du glacier Galunga. Pourquoi des erreurs aussi grandes, aussi flagrantes?
Ce qui est intéressant, c'est que ma science, la glaciologie, est une science assez récente. Et aujourd'hui, cette glaciologie fait face à un des plus grands défis de l'humanité, c'est-à-dire de comprendre l'impact du changement climatique sur des écosystèmes. Donc nous, à coup d'outils, de technologies, nous essayons de comprendre des phénomènes extrêmement complexes dans des paysages très lointains, difficiles d'accès. Et dans l'Himalaya particulièrement, je pense qu'on a notre plus beau challenge de comprendre la vitesse de fonte des glaciers. Ce que l'on remarque aujourd'hui avec des nouveaux outils, des nouvelles technologies, c'est que les glaciers dans l'Himalaya sont beaucoup connectés à des lacs. Et ces lacs, c'est de l'eau de fonte, hein, des glaciers tout naturellement. Ces lacs se réchauffent. Donc imaginez, c'est comme si vous aviez en quelque sorte une source de chaleur contre le glacier. Et le glacier non seulement fond à sa surface par les températures de l'air qui augmentent, mais aussi à cause de ces lacs qui se réchauffent.
Mais ça veut dire que si on n'a pas repéré pendant 20 ans le véritable constat de la fonte des glaces dans l'Himalaya, ça veut dire que les satellites ne voient rien et c'est valable ailleurs?
Alors les satellites ne voient pas rien, les satellites voient beaucoup hein, et nous rendent tout un tas de services. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux nous les glaciologues, on peut pas être partout et on essaie d'être au maximum sur le terrain, mais on a vraiment besoin de ces satellites pour observer de très grandes surfaces. Mais ce que les satellites ne voient pas, c'est ce qui se passe dessous, ce qui se passe dans les glaciers, ce qui se passe au contact de ces lacs, et ça c'est vraiment invisible à ces satellites.
Et c'est pour ça que ça a été largement sous-estimé en partie.
Voilà, c'est sous-estimé. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que plus nos outils s'améliore, plus nos modèles s'affinent, plus les nouvelles sont mauvaises quand il s'agit du dérèglement climatique.
Mais donc cette erreur qui a été commise, enfin erreur entre guillemets, quel danger immédiat ça nous fait courir? Est-ce qu'on peut présenter les choses comme ça?
Je pense qu'erreur, déjà le terme est un peu fort.
Ouais,
la science cherche à s'améliorer tout le temps, hein, chaque jour, chaque semaine.
Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On a sous-estimé la gravité de la situation.
Voilà, on a sous-estimé, on est très conservateurs, nous, en tout cas dans nos résultats. On essaie de blinder hein, nos études scientifiques
bien
le plus
sûr.
Possible, mais parfois, voilà, on les améliore. Et là, justement, on se rend compte
là,
que c'est là qui fondent beaucoup plus vite que prévu. Et donc, quelles sont les conséquences?
Ouais.
Ça, c'est vraiment très important. L'Himalaya, c'est directement connecté à quoi? La Chine et l'Inde.
Voilà.
Ces glaciers, ce sont les châteaux d'eau hein, de cette région-là de la planète. Et lorsqu'on voit que ces glaciers, en fait, fondent beaucoup plus rapidement que prévu, il y a deux conséquences principales. Déjà, un manque d'accès à l'eau potable, l'eau douce, dans ces régions-là. Mais aussi, ça veut dire que ces lacs se remplissent encore plus vite que prévu. Et ces lacs, dans l'Himalaya, on se rend compte qu'ils créent tout un tas de soucis. Il faut savoir que toutes les vallées de l'Himalaya, pratiquement, sont habitées. Il y a des activités économiques, de l'agriculture de subsistance. Plus ces lacs grossissent, plus ils risquent de se vider, de se vidanger de façon catastrophique. On appelle ça des gloffes, c'est le terme technique. Et malheureusement, on se rend compte, plus ces lacs fondent, plus on risque d'avoir un impact direct sur les vies humaines dans l'Himalaya.
C'est-à-dire engouffrer, se répandre sur des villages et les...
C'est exactement ça. C'est un peu, quand le lac se vidange, c'est un peu comme un tsunami, en fait, qui va tout dévaster sur son passage. J'ai eu la chance de l'étudier dans l'Himalaya il y a quelques années maintenant, au Népal, et je le raconte dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces populations sont extrêmement vulnérables. Et ce qui se passe dans l'Himalaya, bah, malheureusement, ça peut aussi arriver chez nous, ça peut aussi arriver en Patagonie, en Alaska, etc., etc.
La fonte des glaces, pleine page dans le Parisien ce matin, aujourd'hui en France, pour dire que cette fonte accentue l'activité sismique à long terme. Vous confirmez qu'il y aura des séismes à cause de la fonte des glaces en Alaska, en Scandinavie, peut-être en Finlande?
C'est une étude super intéressante et je la découvre moi aussi ce matin. C'est assez fascinant de voir en fait l'importance de ces glaces. Ces glaces, c'est aussi un poids monumental hein, qui est posé voilà, sur le radeau Terre en quelque sorte. Et lorsque ce poids change très rapidement avec le changement climatique, bah forcément la structure de la croûte terrestre doit se réajuster. Et ce qu'on remarque, c'est de plus en plus de séismes, mais aussi de plus en plus de volcans qui rentrent en éruption directement liés au fait que parfois leur chapeau de glace est en train de se réduire.
En fait, les glaciers sont non seulement un champ de mémoire, vous l'écrivez très bien dans le livre, ils nous racontent aussi la vie de demain, les glaciers.
Les glaciers, c'est... C'est notre passé, c'est notre présent, c'est notre futur. C'est vraiment ce qu'on voulait expliquer avec le livre, c'est qu'on est tous en quelque sorte les doigts dans la prise des glaciers. Notre avenir est directement lié à l'avenir de ces glaces, que ce soit par le fait que 70% de nos réserves d'eau douce sont dans la neige et la glace aujourd'hui, que ce soit par le fait que si ces glaces disparaissent, c'est 65 mètres d'élévation du niveau des mers partout sur Terre. Donc aujourd'hui, toutes les décisions que l'on prend maintenant, aujourd'hui, ce dimanche, eh ben elles vont impacter le futur des glaciers, et le futur des glaciers va nous impacter, nous, directement.
Alors vous, Heidi Sevestre, vous êtes tout le temps fourrée près de l'Arctique, ou dans l'Arctique, au-delà de la Norvège. Alors on est encore en Norvège, mais vous êtes vraiment très très au nord de la Norvège. Qu'est-ce que vous y faites très concrètement? Parce que vous y êtes tout le temps. Donc qu'est-ce qu'il y a tout le temps à faire là-bas?
C'est un endroit que j'aime éperdument, je pense que...
Ça se voit, vous avez les yeux qui pétillent.
Ouais, mon cœur est vraiment là-bas. Alors, quand je dis là-bas, je parle du Svalbard ou du Spitsberg. Oui. C'est ce petit archipel qui est entre le nord de la Norvège et le pôle Nord.
1000 kilomètres après le pôle Nord.
Voilà, on est là-haut, c'est la ville la plus au nord du monde, c'est assez fou. C'est là où j'ai fait mon doctorat à l'université, c'est là où je continue à donner des cours. Mais au-delà de donner des cours à l'université, cet endroit est devenu l'épicentre du dérèglement climatique.
Alors, donc, expliquez-nous.
On sait que l'Arctique se réchauffe très vite, 3-4 fois plus vite que le reste de la planète. Si on zoome sur le Svalbard, sur le Spitsberg, c'est 6 à 7 fois. Ce qui se passe, c'est que là-bas, on est dans un royaume de glace. Tout est fait de neige, de glace, de permafrost, de ce sol gelé en permanence. Forcément, lorsqu'on augmente le thermostat de ce paysage-là, tout est en train de changer. Et d'être là-bas, bah, c'est vraiment de prendre le pouls du changement climatique. Les changements sont cataclysmiques là-bas. C'est beaucoup plus rapide qu'on le pensait. Et nous, les scientifiques, là-haut, on est vraiment dans une course contre la montre pour comprendre ce qui se passe, mais surtout pour avertir le reste de la planète que l'Arctique est en train de changer. Et si l'Arctique change, ça va tous et toutes nous affecter.
Alors justement, on va parler, après le constat, de la façon de réagir à ça. Et on parlait de la Chine tout à l'heure. C'est une des informations issues du voyage d'Emmanuel Macron en Chine. La Chine a l'intention de participer au sommet sur le climat prévu en juin à Paris. Qu'attendez-vous de Pékin pour protéger ce qu'il reste des glaciers?
On attend de Pékin ce que l'on attend de tous les pays du monde. C'est vraiment un réveil, un sursaut des décisions radicales qui sont prises par rapport à l'importance de décarboner leur économie. On sait que la Chine investit massivement dans les énergies renouvelables, mais son économie repose encore en grande partie notamment sur le charbon. Et aujourd'hui, la Chine et notamment toutes ces cultures du riz et de coton, qui sont dans la région tibétaine directement rattachée à l'Himalaya, a besoin encore aujourd'hui de ces glaciers. Si ces glaciers disparaissent, ça va avoir des conséquences désastreuses sur la Chine, sur son économie, sur l'augmentation du niveau de la mer, mais c'est aussi ce qu'on appelle la global supply chain. Finalement, nous sommes tous connectés à ce qui se passe en Chine et en Himalaya.
Vous avez participé à pas moins de 5 COP pour le climat, la dernière, la COP27 à Sharm el-Sheikh, avec ce constat que le temps politique n'est décidément pas celui du temps géologique. Les politiques ne se projettent pas sur le long terme, c'est ce que vous avez repéré dans ces COP?
Ces COP sont très importantes, il n'y a aucun doute là-dessus, ça reste le seul moment dans l'année en fait où on retrouve tous les pays du monde autour de la même table pour parler du changement climatique. Évidemment, lorsque l'on voit les résultats de ces COP, on est toujours très frustré parce qu'on n'a jamais exactement l'ambition à laquelle on s'attendait.
Juste avant de répondre à la question, racontez-nous comment ça se passe à l'intérieur d'une COP, du coup.
Ouais, c'est très intéressant, les coulisses d'une COP.
Vous avez de l'impact quand vous allez dans ces COP ou...
Ah bon, on essaye. Moi, quand je vais à une COP, j'y vais pas toute seule, j'y vais avec une petite armée de scientifiques. Et nous, on essaye vraiment d'influencer les négociations. Comment on essaie d'influencer des négociations? C'est pas simple. On invite les négociateurs du climat, des petites équipes qui vont représenter tous les pays du monde. Donc on invite la France, la Suisse, l'Allemagne, la Chine, etc., etc. Et on leur donne les dernières nouvelles de la glace, les dernières nouvelles du froid. Et on leur fait bien comprendre que leur économie, que leur population est directement connectée à ces glaces.
Mais depuis le temps que vous le dites, ils devraient le savoir.
Alors, au contraire, je pense qu'on se met un peu le doigt dans l'œil quand on pense que les négociateurs du climat connaissent par cœur l'ampleur du changement climatique. Ils ne peuvent pas tout savoir. Nous, on a un sujet très très précis sur la neige et la glace. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Stockholm en train de préparer ces négociateurs du climat pour la COP. Ils tombent des nues quand on leur apprend vraiment ce qui se passe. Donc on a vraiment besoin de cette ambition-là. Et donc, on veut vraiment avoir un sursaut monumental de ces pays pour lutter contre le changement climatique parce que nos vies en dépendent aujourd'hui.
Et donc, pour répondre à la question, question d'Éric, le dirigeant politique, c'est le bon vecteur, c'est la bonne personne sur laquelle s'appuyer pour faire avancer les choses ou pas ?
Alors, je dis souvent qu'il faut faire avec, le gouvernement qu'on a aujourd'hui, il faut faire avec les entreprises qui sont en place aujourd'hui, avec les solutions que l'on a dans nos mains. Aujourd'hui, tout est en place pour qu'on puisse y arriver. J'insiste là-dessus, on a toutes les cartes en main. Ce qui nous manque, certes, je suis d'accord, il nous manque un vrai sursaut politique. On sait que, et il faut saluer les efforts qui sont faits par la France, c'est pas du tout assez, il faut vraiment que l'on double ou triple les efforts qui sont faits dans notre pays en ce moment.
Mais vous me surprenez quand même, parce que dans l'équation, il y a les voitures qu'on utilise, il y a nos voyages en avion qu'on adore, il y a les entreprises, il y a les smartphones qu'on a tous, il y a les nouvelles technologies qui usent énormément notre planète. Donc, parlons franchement à Eddie Sevestre, jusqu'à quel point est-ce qu'il va falloir qu'on change notre façon de vivre pour s'adapter au climat ? Que ça, personne ne nous le dit.
On le dit, on essaye. Au moins, nous, les scientifiques, les rapports du GIEC le disent aussi.
Non, mais à quoi doit ressembler la prochaine société ?
Alors, il faut s'adapter, mais il faut essentiellement aussi réduire le problème à sa source. Et quand je dis réduire le problème à sa source, c'est vraiment tacler les énergies fossiles. Il faut savoir que chaque tonne de gaz, de charbon, de pétrole que l'on brûle nous met droit dans le mur. Et aujourd'hui, ça va dépendre de chacune et chacun d'entre nous d'utiliser nos voix, d'utiliser nos actions de tous les jours, de voter pour les bonnes personnes, d'utiliser nos entreprises. Et je vois au niveau des entreprises, ça se soulève dans tous les coins en ce moment. Et donc, essayons de faire en sorte que ces solutions deviennent irrésistibles. Je suis très optimiste, je ne lâcherai pas le morceau, et c'est comme ça qu'on y arrivera.
Vous êtes optimiste. La prochaine COP, la 28, qui se tiendra aux Émirats Arabes Unis en novembre prochain, est-ce que vous y voyez une provocation ou au contraire une belle opportunité ?
Ça fait depuis les années 1970 que les industries fossiles savent que plus on brûle d'énergie fossile, plus ça va affecter le reste de la planète. Je pense que c'est essentiel pour moi de maintenir un dialogue avec eux. Là, on voit, malgré la COP qui se prépare, que les Émirats investissent encore plus dans les énergies fossiles. Donc voilà, il est le temps de réveiller tout ça et vraiment de leur expliquer concrètement pour eux ce que ça veut dire en termes d'élévation du niveau des mers, par exemple.
Et vous, du coup, dans les solutions, vous êtes d'accord, vous aimeriez que le principe pollueur-payeur s'applique partout, c'est-à-dire faire payer les États qui ne sont pas suffisamment dans les clous, c'est ça ?
Pour l'instant, il n'y a pas de doute que la pollution ne coûte pas assez cher par rapport au changement climatique.
Mais faire payer seulement les États, faire payer aussi les entreprises, faire payer aussi le particulier ?
Je pense qu'on est tous dedans, on n'est pas... On n'a pas tous la même empreinte carbone, on n'a pas tous la même empreinte de la pollution sur l'environnement, et il faut aussi que les États prennent leurs responsabilités par rapport à ça.
Et donc, chacun d'entre nous devrait payer pour son empreinte carbone ? C'est ça que vous dites ? Il faut aller jusque-là ou pas ?
Je pense qu'il faut déjà éduquer le grand public par rapport à ça, mais c'est très certainement entre les mains des gouvernements aujourd'hui. Et quand on parle d'une taxe carbone, d'une taxe sur la pollution, eh ben on n'a pas tous à la payer à la même hauteur, ça c'est sûr. On n'a pas tous la même empreinte carbone.
Heidi Sevestre, glaciologue. Comment devient-on glaciologue ? Vous racontez un petit peu dans votre livre que vous avez trouvé votre voie, votre vocation de glaciologue à 17 ans, après que votre mère vous a inscrite à un casting de la télévision suisse romande pour participer à une course entre Chamonix et Zermatt. Qu'est-ce qui a été révélateur ?
Ouais, c'est un peu cocasse comme situation de faire ça quand on avait 16 ou 17 ans. En fait, pour moi, j'étais déjà amoureuse de la montagne, amoureuse de la nature à cette période-là, mais j'ai rencontré quelqu'un qui a été déterminant pour moi. Hubert, un guide suisse avec des yeux bleus glaciers, qui était à quelques années de sa retraite. Il avait tellement d'histoires à raconter, Hubert, et il a vu que les yeux de la petite Heidi à l'époque pétillaient quand elle était sur les glaciers. Et il m'a dit, écoute Heidi, te tracasse pas, il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers, on appelle ça des glaciologues. Et je me suis dit, ça a l'air plutôt sympa comme métier, et voilà.
Est-ce que c'est un métier plus risqué que ce que vous imaginiez ?
C'est extrêmement risqué, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Malheureusement, on a toutes et tous perdu des collègues dans le monde de la glaciologie, aussi parce que la Terre se réchauffe, les glaciers changent et le métier devient encore plus dangereux qu'il l'était avant. Mais j'aime aussi cet aspect où on sent que la nature est beaucoup plus forte que nous. On se rend compte de la puissance de la nature dans ces paysages-là et on ne peut que se sentir toute petite quand on est dans cette nature aussi puissante.
Et donc du coup, il faut avoir un physique hors norme. D'ailleurs, voilà, vous êtes très longiligne, on vous sent très, très athlétique, très musclé. Il faut vous entretenir énormément.
Tout le temps,
du sport quotidien aussi.
J'essaye d'être toujours prête à partir en expédition. Donc je fais du sport vraiment tout le temps, toute l'année. Je suis un petit peu cassée aussi d'avoir passé énormément de temps sur le terrain, d'avoir fait des expéditions partout dans le monde.
Cassé
comment ? Et on y raconte dans le livre.
Ouais.
Cassé à force, malheureusement, avalanche, tomber dans des crevasses, se faire mal en fait dans les glaciers, porter des charges très très lourdes. C'est physique, voilà, le métier de glaciologue, c'est sûr.
Et pour finir, quelle est l'expérience peut-être la plus marquante que vous avez vécue ? qui vous a vous le plus marqué, qui vous a fait peur peut-être même.
Ce qui m'a vraiment le plus marqué, je crois, c'était l'Antarctique. L'Antarctique, c'est 23 fois la taille de la France. Les tempêtes qu'on a en Antarctique sont absolument apocalyptiques. Et c'est de marcher sur cette barrière de glace qui fait la moitié de la taille de la France après 8 jours de tempêtes très fortes et de me dire que cette barrière, d'ici quelques années, elle risque de disparaître à cause de nous, que son futur est directement entre nos mains.
Notre avenir dépend des glaciers. Nous pouvons encore les sauver. C'est le sous-titre et la note d'espoir en une de ce livre que vous signez, Heidi Sevestre, avec la collaboration d'Isabelle Marié, Sentinelle du climat. Le livre paraît chez HarperCollins. Merci d'être venu en parler ce matin sur France Inter.
Merci.
Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.